Chapitre 74. Habitation Wagram, nord de Grande-Terre. 12h45. Il ne reste rien de l'habitation W. Seulement des poutres brûlées, des pierres noires, une charpente ouverte au milieu des tamariniers, des squelettes tortueux des mapous gris et d'un arbre du voyageur émergeant des fougères. Un temple oublié au milieu d'un jardin redevenu jungle, perdu dans un océan de canne à sucre. Valéric écarte les lianes d'un banyan et s'avance. Il a sorti son Sigsauer de son étui et le braque devant lui. C'est un piège, forcément. À chaque vision d'Évariste, le harponneur était là, avant eux. Il n'avait pas choisi sa victime au hasard. Il l'avait attiré sur les lieux selon un plan minutieux. Trop tard pour reculer. Contrairement aux autres victimes ciblées par le tueur, Valéric est averti, méfiant, armé. Un Sigsauer contre un harpon de pêcheur, le rapport de force n'est pas en sa défaveur. À moins qu'il ne soit plusieurs. Valéric entre dans les ruines de l'habitation et tente de se rassurer. Quel que soit le nombre des assassins, ils ne tireront pas tout de suite. L'aube est encore loin. Le sol est recouvert de terre noire et de sable porté par les alizés, accumulés entre les murs effondrés. Aucune pluie récente n'est venue coller le fin brouillard de particules qui voltige à ses pieds. Ses semelles laissent des empreintes dans la poussière. Elles lui permettent de se souvenir des pièces qu'il visite, façon petit pousset. Toutes se ressemblent. Le mobilier a disparu. Restent des canettes de bière, des bouteilles de rhum et des emballages de polystyrène éventré. Les ruines de l'habitation W sont sans doute un spot réputé pour les ados souhaitant passer une nuit d'épouvante bien arrosée. Un véritable dédale, où chaque poutre menace de tomber, chaque porte de basculer, où... Le commandant se fige. Il a repéré une empreinte de pas sur le sol. Une empreinte nette, fraîche, tracée il y a à peine quelques secondes. Plus petite que la sienne. Quelqu'un est là, tout près, se promène. Le traque. Aussitôt, Valéric colle son dos au mur le plus proche et pointe son Sigsauer, balayant du bout de son canon chaque cachette potentielle de l'habitation. Le harponneur peut se dissimuler n'importe où, surgir de partout. Le commandant n'entendra que le sifflement d'une flèche qui fend l'air. Il tend l'oreille, scrute le silence, mais ne perçoit que le souffle du vent dans les fougères. Et soudain, un éclat de rire qui explose. Léger, joyeux, incongru dans ce décor horrifique.
« Oh là, commandant, vous n'allez pas tirer sur une femme sans défense ?»«
Vous ?»
Marie-Douce l'énervée sort d'une ouverture rectangulaire. Une ancienne porte dont il ne reste que des planches calcinées. D'instinct, Valéric garde son Sigsauer braqué.
« Qu'est-ce que vous faites là ?»
Madou sourit mais lève les mains.
« Mon travail ? Quoi d'autre ?»
La journaliste s'avance sans baisser les bras. Sa fine robe à bretelles épouse ses hanches et sa poitrine. Une preuve élégante qu'elle ne dissimule aucune arme. Encore moins un pistolet harpon. Dans son sac à main peut-être, mais il lui faudrait plusieurs secondes pour l'ouvrir, le saisir.
« Comment pouviez-vous savoir que je serais ici ?»
demande le commandant sans baisser son arme.
« Le plus simplement du monde, Valéric. Je vous ai suivi. Depuis la prison de Bemao, ce n'était pas très difficile de vous y attendre. »
Le policier ne relâche pas la pression.
« Impossible. J'ai tourné pendant 20 minutes dans le champ de canne à sucre. Je vous aurais obligatoirement croisé. »
Madou laisse échapper un nouvel éclat de rire.
« Je vous avoue, commandant, que j'ai eu de la chance. » J'ai tourné moi aussi dans les champs, mais j'ai roulé sur le panneau rouillé 5 minutes avant vous. Ça m'a permis de trouver l'habitation W la première, de me garer un peu plus loin et de vous attendre. Vous n'aimez pas les surprises ?
La journaliste s'assoit sur un tronc de mapou gris à moitié dévoré par la mousse. Pose son sac à côté d'elle.
Allons, de quoi avez-vous peur ? N'avons-nous pas désormais un point commun ?
Le commandant reste debout, dos au mur, muet.
Nous avons tous les deux été virés, commandant. On nous a retiré cette affaire. Dans ces ruines, vous n'êtes pas plus policier que je ne suis journaliste. Mais nous avons le même intérêt. Découvrir l'identité de l'assassin de l'aube pour sauver notre réputation.
C'est un piège. Valéric en est conscient. Marie-Douce continue de sourire pourtant sûr d'elle, décontractée. Le policier crispe sa main sur son pistolet.
« Je ne vous crois pas, Mado. Vous m'avez attendu devant ma case de bois malaire hier et il y a 3 jours. Vous m'attendiez encore sur le port des Saintes, puis dans cette ruine maintenant. Votre numéro de charme ne prend plus. Vous me cachez quelque chose. »
La journaliste paraît follement s'amuser. Ses yeux noisettes se teintent d'une pointe violette. « Vous cachez quelque chose ?»« N'inversez pas les rôles, commandant. Si je vous suis, c'est au contraire pour connaître la vérité. Vous le savez autant que moi, je suis la seule à m'être approchée de votre secret. C'est donc à moi de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous faites là ?»
Le commandant hésite. Cette femme possède l'art de retourner la situation en sa faveur. Tous les signaux d'alerte sont réunis pour qu'il se méfie. Et pourtant, une voix stupide et naïve dans sa tête lui souffle de lui faire confiance.
« Allons, Valéric. Pensiez-vous vraiment que personne ne ferait le lien entre votre histoire et ces événements ? L'habitation Wagram a brûlé le 11 avril 2003. La plantation appartenait à Victorius Quatrebras, assassiné ce matin à l'aube. Toutes les autres victimes étaient-elles aussi présentes sur l'île en avril 2003 ? Et vous aussi, commandant. Vous avez rejoint la métropole quelques mois plus tard, après le procès de votre père en mars 2003. Encore une coïncidence ?
Que s'est-il passé, Valéric ?
À qui d'autre que moi pouvez-vous en parler ?
Le commandant prend une longue inspiration. Il rumine ce souvenir depuis près de 24 heures. Les premiers flashs sont revenus lorsque cette date a été évoquée. Avril 2003. Puis tout est apparu clairement ce matin, quand Amiel a prononcé le nom de Victorius Quatrebras. Il avait oublié le reste, mais pas ce nom. Il reste debout, ne baisse pas son pistolet, s'assure que la journaliste n'a dissimulé aucune arme près du tronc sur lequel elle est assise, que son sac à main reste hors de portée.
D'accord. Après tout, si vous y tenez, vous allez être déçu, Mado. Cette histoire est d'une dramatique banalité. Tout commence par une tradition presque oubliée, la technique du brûlis pour récolter la canne à sucre. Elle est pratiquée partout dans le monde, y compris sur cette île. Brûler les champs de canne présente plusieurs intérêts. Débarrasser les tiges de leurs feuilles mortes, faciliter le travail des coupeurs et des ramasseurs, faire fuir les serpents et autres animaux venimeux, éclaircir les rangs pour repérer les débris qui pourraient endommager les engins agricoles. Les feux de canne à sucre sont aussi spectaculaires qu'éphémères. Les touristes eux-mêmes en redemandent. Une photo de champ de canne en flammes à l'aube vaut tous les levers de soleil. Bref, que des avantages, à part une pollution inouïe. Et le risque que le brûlis ne soit pas toujours contrôlé, par grand vent en particulier. Mais nombre de planteurs ne vont pas renoncer pour autant à une pratique aussi économique. Victorius Quatrebras n'a fait que reproduire une tradition ancestrale, une tradition qu'il pensait maîtriser. Il a suffi d'un mois de mars un peu trop sec, d'un vent un peu trop tourbillonnant, de fossés par feu pas assez creusés, et Victorius a tout perdu en quelques heures. L'habitation W a été la première à s'enflammer. Puis l'incendie a atteint les premières branches de tamarinier, s'en est nourri, a grossi, s'est propagé aux champs voisins, traversant route et chemin, ne s'arrêtant qu'aux premières falaises de la Grande Pointe et du Petit Chapeau. Ces accidents sont rares, Madou, et devant un champ de canne en flammes, les habitants ont toujours le temps de fuir. Sauf cette fois. Ce 11 avril 2003, une famille d'agriculteurs s'est retrouvée piégée par la fumée du brûlis des champs de l'habitation W. Leur voiture a basculé dans le fossé, portière coincée. Ils n'étaient pas gravement blessés, mais impossible pour eux de s'extirper du véhicule. Seule leur fille, une gamine d'à peine 10 ans, a pu s'échapper. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu pour chercher des secours. J'étais sur place, avec 3 brigades de pompiers. J'ai recueilli la petite dans mes bras, mais il était déjà trop tard. Les pompiers n'ont pu dégager de la voiture que 2 corps calcinés.
Marie-Douce garde le silence un long moment. Elle peine à retenir les larmes qui perlent au coin de ses yeux.
D'une dramatique banalité. Vous avez le sens de la formule, commandant ?
Non. Juste celui des réalités. En 20 ans de service, je m'y suis habitué. Accident de la route. Accident domestique. Crime passionnel, suicide sous toutes les formes possibles. C'est devenu mon lot quotidien. Je vous le confirme, Madou. J'avais presque oublié l'incendie de l'habitation Wagram avant de me retrouver devant le cadavre de Victorius Quatrebras.
Marie Douce lève des yeux tristes vers le policier.
À mon tour de ne pas vous croire, commandant.
Valéric sursaute. Il s'aperçoit que son Zigzauer pend au bout de son bras.
Comme vous voulez. Il existe des archives. Vous pourrez les consulter, même si...
Même si quoi ?
Même si je connais votre goût immodéré pour le complotisme.
L'attaque est perfide. Le policier l'assume. Il crispe par réflexe ses doigts autour de la crosse du pistolet. La journaliste ne paraît pourtant pas vexée. Elle se contente de le dévisager avec une ironie désolée.
Ah, je suis certaine que les dossiers rangés à la DZPJ confirmeront votre version, commandant. Mais je suis persuadée que vous ne dites pas toute la vérité.
Valéric essaie de se convaincre du contraire. Tous les faits qu'il vient de relater sont rigoureusement exacts. L'incendie de l'habitation Wagram n'a fait que 2 victimes. Quand ils sont arrivés sur place, il était déjà trop tard pour les sauver. Les pompiers lui ont confirmé. Il n'a rien. Rien à se reprocher.
Le regard inquisiteur de Madou l'insupporte soudain, comme si elle était la détentrice d'un ordre moral supérieur.
« Je comprends maintenant, »
dit le commandant.
« Que comprenez-vous ? » ?»«
L'attitude de Valentin le Cocu et de tous les fonctionnaires vis-à-vis de vos sites à Canciel et Quimbérède. Je comprends à quel point vous les emmerdez, à ne faire confiance à personne, à douter de tout. »
Le regard pourpre de la journaliste pétille à nouveau.
« Ne changez pas de conversation, Valéric. Nous parlons de vous. »
La tempête couve sous le chapeau du commandant. Il se retient de hurler.
« Puisque je vous dis que... »
Il ne termine pas sa phrase. Quelque part, près d'eux, il a entendu un bruit. Il braque son pistolet à l'aveuglette.
« Ne bougez surtout pas. »
Le premier réflexe de la journaliste est de se lever.
« Restez ici, Madou !»
La journaliste, comme déterminée à agir à l'inverse de chaque ordre du policier, a déjà franchi une porte noircie. Valéric lui emboîte le pas. Lentement, veillant à faire le moins de bruit possible, pointant son pistolet en direction de chaque planque, pouvant dissimuler un sniper. Il existe des dizaines de cachettes potentielles. Derrière chaque mur, derrière chaque tronc, le danger peut venir de partout.
« Attendez-moi, Madou !»
Le policier franchit à son tour la porte noircie.
« Madou ! Madou !»
La journaliste a disparu. Volatilisée. Le commandant est tiraillé entre l'envie de se ruer à la poursuite de Marie Douce et la nécessité de ne pas se précipiter, d'examiner les lieux avec prudence, minutie. Et si elle était en danger ? Et si l'assassin ?
La douleur lui déchire l'aine. Le harpon vient de se planter dans sa hanche.
La douleur est si violente qu'il lâche son arme, s'effondre, se fracasse l'épaule en tombant sur un bloc de ciment. Il appuie à 2 mains sur la plaie pour tenter de stopper l'hémorragie. Le sang coule tout de même. Son Zigzauer est à 2 mètres de lui. Il est incapable de se relever, à peine de ramper. Il n'est plus qu'une bête à terre, sans défense, qui attend que le chasseur vienne l'achever. Thibault Lanmot. Le baiser de la mort.